Voilà, puisque nous sommes à l'approche de Noël, nous avons choisi de présenter quelques traditions juives qui peuvent être mises en relation avec les récits évangéliques sur la naissance et l'enfance de Jésus. Avant d'aller plus loin, est-ce que la sonorisation est satisfaisante? Tout le monde entend? Très bien. Alors, je vais vous présenter d'abord des traditions sur la naissance et l'enfance de Moïse, et ça nous permettra d'évoquer surtout l'évangile de Matthieu, et puis peut-être plus brièvement à la fin, une tradition aussi qu'on pourra mettre en rapport avec l'évangile de Luc. Je voudrais d'abord vous présenter donc un ensemble de traditions très anciennes pour la plupart, concernant la naissance de Moïse. Des traditions qui remontent aux origines, aux alentours de l'ère chrétienne, du début de l'ère chrétienne, Flavius Joseph, Philon d'Alexandrie, ou bien des Midrashim dont on peut penser qu'ils sont très anciens. Bon, ces traditions, je ne sais pas, vous êtes certainement habitués quand même maintenant, plus ou moins, en tout cas certains d'entre vous, aux traditions juives, aux traditions rabbiniques, aux commentaires midrashiques. Ces traditions, quelquefois, sont nées d'un examen très attentif du texte biblique, dont on tire quelquefois des conclusions qui sont surprenantes pour nous, esprits qui se croient rationnels, ou bien, quelquefois, ce sont des traditions qui sont probablement d'une origine indépendante, mais qu'on arrive à rattacher quand même au texte biblique. Alors, il n'est pas toujours facile de savoir si c'est la tradition qui précède l'exégèse ou l'inverse. Mais en tout cas, c'est toujours rattaché au texte biblique lui-même. Donc nous avons un certain nombre de traditions, d'abord concernant les parents de Moïse. Et ces traditions nous disent que c'était non seulement des gens saints, mais des gens éminents. Nous connaissons le nom du père de Moïse par l'Écriture, il s'appelait Amram, c'est dans l'Exode au chapitre 6, versets 18 à 20, je donne ces références pour ceux d'entre vous qui les notent. Et Philon d'Alexandrie nous dit que Moïse avait pour père et mère les meilleurs des parents parmi leurs contemporains. Et on nous dit aussi que Amram et Yokeved, donc la mère de Moïse, sont les plus grands époux de leur temps, et grâce à leur mérite, le Saint, béni soit-il, a fait sortir d'Égypte les fils d'Israël. On nous dit encore que Amram était l'homme le plus important de sa génération. Et on nous dit même, on n'a jamais peur de l'anachronisme, qu'il était président du Sanhédrin. Président du Sanhédrin en Égypte. Évidemment, ça peut surprendre. On sait bien que c'est anachronique, mais étant donné que lorsque Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent, il lui dit « Va et réunis les anciens d'Israël », on en tire la conclusion que s'il y avait des anciens d'Israël, c'est que la société israélite était organisé. Et donc, s'il y avait des anciens, il y avait un président, et on nous dit que ce président, c'était Amram. Tout cela n'allait pas le chercher dans la Bible. Quelquefois, je dis des choses comme cela devant des groupes, et on me dit, mais ça n'est pas dans ma Bible. Non, ça n'y est pas, en effet. Mais voilà, ce sont les traditions qui se sont développées autour de la Bible. On nous dit que Amram fait partie des gens qui ont fait revenir sur terre la Shérina, c'est-à-dire la présence divine. Il est dit qu'à l'origine, la présence divine résidait sur terre et que le péché des générations successives l'a fait remonter jusqu'au septième ciel. Avec la faute de Caïn, elle se retira au deuxième et ainsi de suite avec les Égyptiens du temps d'Abraham. La présence divine se retira au septième ciel et tous furent contrebalancés par sept justes. Abraham, Isaac, Jacob, Lévi, qui se trouve être le grand-père d'Abraham, donc l'arrière-grand-père de Moïse, Kehat, le père d'Abraham, Amram et Moïse. Donc voilà, il y a des pécheurs qui ont fait remonter la présence divine au 7e siècle et des justes qui l'ont fait redescendre. Et le dernier de la série, c'est Moïse. Amram vint et la fit redescendre du 2e au 1er, et celui qui la fera descendre depuis le 1er, c'est Moïse lui-même. Évidemment, tout cela n'a pas de fondement dans l'Écriture, mais il y a quand même un détail qu'on trouve deux fois, à ma connaissance, peut-être pas plus, qui a attiré l'attention sur le fait que le père de Moïse, pour l'écriture, n'est pas quelqu'un de tout à fait ordinaire. C'est qu'à deux reprises, au moins, Dieu est appelé le Dieu du père de Moïse. Très curieusement, lorsque Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent, il dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». C'est dans l'Exode au chapitre 3. On serait tenté quelquefois de corriger en disant « Il doit y avoir une erreur de scribe et il faut peut-être comprendre « Je suis le Dieu de tes pères ». Mais le texte biblique dit bel et bien « Je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob, de tes pères, Isaac et Jacob, de ton père, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob ». Il y a d'ailleurs un commentaire intéressant là-dessus, mais on ne peut pas tout dire ce soir. Et puis dans le cantique qui est chanté par Moïse et les fils d'Israël, après le passage de la mer Rouge, « C'est mon Dieu et je l'exalte, le Dieu de mon père, Elohé Avi ». Donc il y a quand même ces deux notations où Dieu se présente comme le Dieu du père de Moïse. Ça peut être attirer l'attention sur le fait que le père de Moïse n'est pas un personnage exactement à mettre sur le même pied que tout le monde. Au début du chapitre 2 de l'Exode, il y a une curiosité du texte biblique qui a fait évidemment l'objet de commentaires très étendus. Alors je vous lis le texte. À première vue, ça n'est pas surprenant, mais quand on y réfléchit, ça n'est pas logique. Exode 2, versets 1 et 2. « Un homme de la maison de Lévi s'en alla prendre pour femme une fille de Lévi. Celle-ci conçut et enfanta un fils. » Ce fils, ça sera Moïse, bien sûr. « Voyant combien il était bon, elle le dissimula pendant 3 mois. » Alors, où est le problème? Quand on lit ce verset, on comprend, un homme de la maison de Lévi, donc il s'agit d'Amram, est allé épouser une fille de Lévi, et puis celle-ci conçut et enfanta un fils. Mais le problème, c'est que nous savons par ailleurs que Moïse a déjà une sœur et un frère aîné. C'est tellement vrai que lorsque la mère de Moïse va déposer le berceau sur le Nil, sa sœur va se tenir à distance pour voir ce qui va se passer. Alors comment comprendre que Moïse a pu naître aussitôt après le mariage de ses parents, alors qu'il a pourtant une sœur et un frère? Alors, voilà comment on a reconstitué l'histoire. On nous dit que Amram, donc, était marié depuis longtemps avec Jochebed, et qu'il avait une fille, Myriam, un frère et un fils, Aaron, et qu'à un moment donné, il a décidé de renvoyer sa femme. Alors, le Midrash ajoute, comme il était le plus éminent de tous les Israélites en Égypte, les 600 000 Hébreux ont renvoyé leurs 600 000 femmes. Voilà. Et puis, au bout d'un certain temps, il a repris sa femme. Il a fait un mariage solennel, nous précise le Midrash. Aaron et Myriam allaient devant lui, les anges étaient même les garçons d'honneur de ce mariage. Et c'est ce qui explique que Moïse a pu naître aussitôt après le mariage de ses parents. Alors, il était deuxième mari. Alors pourquoi est-ce que les parents de Moïse, je suis toujours évidemment dans mes traditions anciennes, pourquoi est-ce que les parents de Moïse avaient décidé, enfin pourquoi est-ce que Amram avait décidé de renvoyer sa femme? Le Targum, donc cette paraphrase populaire de la Bible en araméen, nous dit « Amram, un homme de la tribu de Lévi, s'en alla et plaça sous le baldaquin, sous le nez des nuptiales, donc sous la roupa, Jochebed, sa femme, qu'il avait renvoyée à cause du décret de Pharaon. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, on nous dit que lorsque les Égyptiens ont fait peser un lourd travail sur Israël et les noyaient dans le fleuve, les Israélites dirent « À quoi cela sert-il de se marier et de faire des fils et de se fatiguer ?» puisqu'on noie nos fils et qu'on les enfonce dans la brique. Voilà encore une autre histoire. On les enfonce dans la brique. On raconte que, puisque les Égyptiens faisaient travailler tout le monde et qu'ils prenaient même un malin plaisir à faire faire les travaux des hommes par les femmes et réciproquement, pour que ça soit plus difficile encore, une femme enceinte avait accouché et que son enfant a été noyé dans la brique. Et les anges ont porté cette brique devant le trône du Saint, béni soit-il, et c'est ce parement que Moïse et Aaron ont vu sous les pieds de Dieu, si on s'en peut, au chapitre 24, je crois, de l'Exode. Bon, donc, lorsque les Égyptiens ont fait peser un lourd travail sur Israël, les Israélites se dirent, à quoi cela sert-il de se marier et de faire des fils et de se fatiguer, puisqu'on noie nos fils et qu'on les enfonce dans la brique. Amram se leva et fit alors une grande chose en Israël. Que fit-il? Il divorça d'avec sa femme alors qu'elle était enceinte de 3 mois. Et elle retourna à la maison de son père. Tout Israël se leva et divorça d'avec sa femme. Après 3 mois, Amram revint et se maria pour accomplir l'écriture qui dit, et on cite ici le premier verset du chapitre 2 de l'Exode. Donc voilà, il avait d'abord envoyé sa femme alors qu'elle était enceinte de 3 mois, c'est ce qui expliquera que Moïse va naître 3 mois après le mariage de ses parents et que les Égyptiens ne l'attendront pas si tôt. Mais pourquoi avoir renvoyé sa femme et pourquoi l'avoir reprise? On nous enseigne qu'Abraham était l'homme le plus important de sa génération. Dès que Pharaon eut décrété que tout garçon qui naîtrait serait jeté au fleuve, Amram se dit « Tout ce que nous faisons est vain » et il décida de divorcer. Tout le monde suivit son exemple. « Père, lui dit sa fille, ton décret est plus cruel que celui de Pharaon l'impie. Il a condamné uniquement les garçons et toi tu condamnes les garçons et les filles. » Puisque Pharaon avait décidé d'éliminer les garçons. Et Myriam dit à son père « Là, tu prives de l'existence les filles qui pourraient naître. Et c'est pourquoi Amram a repris sa femme, que les 600 000 en ont fait autant, et donc il a fait solennellement ce deuxième mariage. On nous dit aussi que Jochéved, donc la femme d'Amram, la mère de Moïse, était aussi une sainte. Et la preuve de sa sainteté, c'est qu'elle a enfanté sans douleur. Alors Flavius Joseph, l'historien de l'époque, nous raconte l'accouchement de Jochéved fit bientôt voir la vérité de cet oracle, un oracle qui avait déjà été énoncé par sa fille, on y reviendra tout à l'heure. Il fut si prompt, il s'agit de l'accouchement, il fut si prompt et si heureux, et ses douleurs furent si légères que les sages-femmes des Égyptiennes n'en purent avoir connaissance. Et puis, dans Exode 2:2, elle conçut et enfanta un fils. Cela veut dire que son accouchement fut semblable à sa grossesse, de même que sa grossesse avait été sans douleur, de même son accouchement fut sans douleur. On peut en déduire que les femmes justes ne sont pas soumises au décret concernant Ève. Alors de quoi est-ce qu'on déduit ça? Du fait que les deux verbes sont mis sur le même plan dans le même verset. Elle conçut et enfanta. Vous savez, il y a un exemple comme cela. Il est dit qu'après le déluge, Noé avait planté une vigne. On s'est posé la question d'ailleurs où est-ce qu'il avait pu trouver un cep de vigne, puisqu'il n'avait pas reçu l'ordre de monter dans l'arche avec un cep de vigne. Mais on lui avait dit de prendre sa femme, ses fils et les femmes de ses fils, et un certain nombre de couples d'animaux. Et là, il a planté une vigne. Alors où est-ce qu'il avait trouvé cette vigne? On nous dit dans les Targoum, il a trouvé une vigne, un cep de vigne que le fleuve avait entraîné hors du jardin d'Éden. Et alors comme il est dit qu'il planta une vigne et il en pressa le fruit, on en conclut que tout ça s'est passé presque instantanément, puisque tout ça est raconté dans le même verset. Donc le jour même, elle a poussé, il en a pressé le fruit, il a fait du vin, il s'est enivré. Voilà. La naissance de Moïse, donc déjà il sort de l'ordinaire après tout ce que je viens de vous raconter, et en plus, elle était annoncée miraculeusement. Alors il y a plusieurs sources à cela. Il y a d'abord une source qui nous dit que ce sont les devins, les mages égyptiens, qui ont annoncé la naissance d'un enfant qui serait le sauveur de son peuple. Là encore, je cite Flavius Joseph. Un de ces docteurs de leur loi, à qui ils donnent le nom de scribe des choses saintes et qui passe parmi eux pour de grands prophètes, dit au roi, donc à Pharaon, qu'il devait naître en ce même temps un enfant parmi les Hébreux, dont la vertu serait admirée de tout le monde, qui relèverait la gloire de sa nation, qui humilierait l'Égypte et dont la réputation serait immortelle. Le roi, effrayé de cette prédiction, promulgua un édit, suivant le conseil de celui qui donnait son avis, par lequel il ordonnait qu'on noierait tous les enfants mâles qui naîtraient parmi les Hébreux. Voilà donc deux traditions très intéressantes. La première qui nous dit « la naissance de Moïse était annoncée par les mages égyptiens » et c'est à la suite de cela que justement Pharaon a décidé de faire exterminer tous les garçons qui naîtraient chez les Hébreux. Une autre source nous dit que c'est Pharaon lui-même qui a eu un songe prémonitoire. Ça, c'est dans le Targoum. Pharaon dit que tandis qu'il dormait, il avait vu dans un songe que tout le pays d'Égypte était posé sur le plateau d'une balance et un agneau, le petit d'une brebis, sur l'autre plateau de la balance. Et le plateau où se trouvait l'agneau s'abaissait. Aussitôt, il envoya quérir tous les magiciens d'Égypte et leur conta son songe. Immédiatement, Jannès et Jambres, on connaît le nom de ces deux personnages, mais vous allez voir que c'est très intéressant, Jannès et Jambres, chefs des magiciens, ouvrirent la bouche et dirent à Pharaon, « Un fils est né, est destiné à naître dans l'assemblée d'Israël, par le moyen de qui toute la terre d'Égypte est destinée à être dévastée. C'est pourquoi Pharaon, roi d'Égypte, avisa et dit aux accoucheuses juives, « Quand vous accoucherez les femmes juives, si c'est un enfant mâle, vous le mettrez à mort. Si c'est une fille, elle pourra vivre. » Alors, les noms de ces deux magiciens, évidemment, n'est pas rapporté dans l'Écriture, mais curieusement, l'auteur de l'Épître à Timothée, qui est attribué à saint Paul, les connaît. Et on trouve ces deux noms dans la deuxième à Timothée, au chapitre 3, verset 8, Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse. Voilà donc deux noms légendaires qu'on trouve dans une tradition juive, mais qui sont connus d'un auteur du Nouveau Testament. Et puis il y a aussi la prophétie de Myriam, dont on a parlé tout à l'heure. Amram eut un fils et une fille, leur nom fut Aaron et Myriam. L'Esprit de Dieu fondit sur Myriam une nuit, et elle vit un songe qu'elle raconta le matin à ses parents. « J'ai vu une vision cette nuit, et voici qu'un homme vêtu de lin se tenait là. Il me dit, va dire à tes parents, ce qui naîtra de vous sera rejeté dans l'eau, car par lui l'eau sera asséchée. Je ferai par lui des signes, et je sauverai mon peuple, c'est lui qui en assurera toujours la conduite. » Alors là, évidemment, le rapport très complexe de Moïse à l'eau. Il aurait dû être noyé, comme tous les garçons de sa génération. Il a été sauvé parce qu'il était mis sur un berceau au fil de l'eau. Et puis il a asséché la mer Rouge, et c'est à cause de lui, ou par son médiation en tout cas, que les Égyptiens ont été noyés dans la mer Rouge, alors qu'ils voulaient noyer eux-mêmes les Israélites. Myriam raconta le songe, mais ses parents ne la crurent pas. Alors ça, évidemment, les parents dans la Bible n'aiment pas quand les enfants ont des songes. Pensez aussi au songe de Joseph. Lorsqu'il raconte le songe, son père n'est pas content, il le réprimande. Mais il retient la chose quand même. Et après, on s'apercevra que finalement, il y avait un fondement. Alors là aussi, c'est rattaché au texte biblique d'une manière qui pour nous est très surprenante. Dans l'Exode, au chapitre 15, verset 20, après le passage de la mer Rouge, il est dit que Moïse, avec les fils d'Israël, chanta les paroles de ce cantique, « Chantons le Seigneur, il a fait éclater sa gloire, etc. » Et ensuite, Myriam, la prophétesse sœur d'Aaron, prit un tambourin et toutes les femmes se mirent à chanter avec elle. Et là, on s'est posé la question, pourquoi est-ce que le texte dit « Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron » et ne dit pas « sœur d'Aaron et de Moïse » alors qu'on vient de parler de Moïse précédemment. Et on nous répond « parce que lorsqu'elle n'était encore que sœur d'Aaron, parce que Moïse n'était pas né, elle était déjà prophétesse. » Et c'est à l'occasion de ce commentaire qu'on trouve dans le Midrash cette formule qui est applicable dans bien d'autres contextes. Il n'y a pas d'avant et d'après dans la Torah. Alors, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'on nie la chronologie. Et on sait bien qu'il y a des successions, des généalogies et des descendances, et donc il y a un avant et un après. Mais cette formule, il n'y a pas d'avant et d'après dans la Torah, signifie qu'une fois que le livre est écrit, il est tout entier contemporain de lui-même et qu'on a le droit de le lire dans tous les sens, de l'avant à l'arrière ou de l'arrière à l'avant, et qu'on peut éclairer un passage tardif par un passage récent et réciproquement. Voilà, alors donc Myriam aussi a su que sa mère était enceinte d'un enfant qui serait le sauveur de son père, de son peuple. Lorsqu'elle a dit ça à ses parents ne l'ont pas cru. Lorsque Pharaon a décidé de faire exterminer tous les enfants des Hébreux, Amram a dit à sa fille, qu'est-ce qu'il en est de ta prophétie ? Et c'est pourquoi, lorsque le berceau a été déposé sur les eaux du Nil, la Bible précise, la sœur de l'enfant se tenait à distance pour voir ce qui allait arriver, c'est-à-dire elle veut voir ce qu'il en sera de sa prophétie. Voilà, et puis Amram lui-même a eu un songe. Alors, décidément, cette naissance de Moïse a été annoncée de plusieurs manières. Dieu apparut en songe à Amram et lui dit de bien espérer que le fils dont sa femme était grosse était cet enfant dont les Égyptiens redoutaient la naissance, et c'est pourquoi ils faisaient mourir à cause de lui tous ceux des Israélites. Il y a aussi des traditions sur la naissance de Moïse. On nous dit d'abord que lorsque Moïse est né, toute la maison a été remplie de lumière. Bon, ça c'est un lieu commun, j'allais dire. Il y a des traditions peut-être plus tardives sur la naissance d'Abraham, qui nous disent aussi que lorsque Abraham est né, la maison a été remplie de lumière. On a cela aussi dans les traditions apocryphes sur la naissance de Jésus. Dans le protévangile de Jacques, la maison a été remplie de lumière. Mais là, c'est fondé sur, là aussi, une lecture attentive du texte biblique. Alors, comme je le disais en commençant, on ne sait jamais trop si la tradition a une origine indépendante et si on la relie au texte après ou l'inverse. Mais il est dit que lorsque Moïse est né, sa mère a vu qu'il était bon, qu'il tov. Bon, très curieusement, enfin je ne sais pas si c'est très curieux, le grec a traduit par kalos, donc Moïse, il est bon en hébreu, il est beau en grec. Ce qui fait que dans le Nouveau Testament, qui suit la Bible grecque, par exemple dans les discours d'Étienne, dans les Actes des Apôtres, on dit que Moïse était beau. Mais en hébreu, on dit qu'il est bon. Alors, lorsqu'on lit la Bible cursivement en hébreu, il y a des choses qui sautent aux yeux et qui ne sautent pas aux yeux dans les traductions. La première chose dont on dit qu'elle est bonne dans la Bible, c'est la lumière. Dieu créa la lumière et Dieu vit que la lumière était bonne. Et c'est la première occurrence du mot « bon » dans la Bible. Et n'oublions pas qu'en hébreu, le mot qui désigne la lumière est masculin. Donc Dieu a vu que Or est Tov. Et puis ensuite, il y a l'œuvre des six jours, et à chaque fois, Dieu voit que c'est bon. Et puis lorsqu'on arrive à la naissance de Moïse, sa mère vit qu'il était bon. Donc on voit ressurgir la formule qui a accompagné le récit de la création. Et donc on nous dit que c'est la lumière du premier jour qui enveloppait Moïse, et c'est cette lumière qui a empli la maison dans laquelle Moïse est né. Et puis un peu plus loin, on nous dit aussi que lorsque la fille de Pharaon a ouvert la corbeille, il en est sorti une grande lumière. D'autant qu'il y a une petite bizarrerie dans le texte hébreu, là aussi, il est dit « elle l'ouvrit ». Alors on a traduit toujours « elle l'ouvrit et elle vit l'enfant », mais si on voulait traduire littéralement, il faudrait dire « elle l'ouvrit et elle le vit l'enfant ». Un pléonasme. Alors, le mot qui introduit le complément, on peut le traduire aussi par « avec ». Et donc, une traduction très littérale fait dire « elle l'ouvrit et elle le vit avec l'enfant ». Donc, Moïse n'était pas seul pas, il s'en est dégagé une grande lumière quand la fille de Pharaon l'a ouverte. Voilà, donc l'opinion des sages, nous dit le Talmud, est que toute la maison fut envahie de lumière lorsque Moïse naquit, car il est écrit « Elle vit qu'il était bon », et il est écrit « Dieu vit que la lumière était bonne ». Mais, étant donné que le grec a traduit par « beau », il y a bien aussi un fondement, d'ailleurs la lumière c'est aussi quelque chose de beau, et c'est pourquoi la fille de Pharaon, quand elle a vu cet enfant, elle a décidé de l'adopter, voilà, parce qu'il était beau. Voilà. Pendant 3 mois, il fut élevé dans la maison de son père, nous dit l'Épître aux Hébreux, par la foi, Moïse, après sa naissance, fut caché 3 mois par ses parents, car ils avaient vu la beauté de leur enfant, et ils craignirent le décret du roi. Bien, et puis, on l'a évoqué tout à l'heure, dans l'Exode, Pharaon décide de faire mourir tous les garçons nouveau-nés parce que les Hébreux vont devenir un peuple trop nombreux et que ça sera une menace pour les Égyptiens. Et dans l'Exode, donc au chapitre 1er, versets 8 à 10, un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voici que le peuple des Israélites est devenu plus nombreux et plus puissant que nous. Prenons de sages mesures pour l'empêcher de s'accroître. Sinon, en cas de guerre, il grossirait le nombre de nos adversaires, il combattrait contre nous pour ensuite sortir du pays. Voilà, donc la raison, d'après la Bible elle-même, pour laquelle Pharaon décide de faire exterminer tous les garçons qui vont naître chez les Hébreux. Mais d'après les traditions que je viens de vous présenter, s'il veut éliminer tous les garçons, c'est parce qu'il sait que parmi eux, il y aura celui qui va libérer son peuple et donc se retourner contre l'Égypte. Là aussi, il y a des traditions qui ne tiennent aucun compte de la chronologie, mais qui sont assez pittoresques. On dit que Pharaon avait son petit conseil privé, là, composé de 3 personnages, et qu'il les a consultés avant de décider de l'extermination. Et ces 3 personnages, c'était Balaam, Jéthro et Job. Alors voilà, Balaam a approuvé la mesure, Jéthro était contre et aussitôt il a pris la fuite, et c'est pour ça qu'on le retrouve en Madian et que Moïse va épouser sa fille, et Job s'est abstenu. Ça lui a attiré donc tous les ennuis que nous savons. Voilà. Alors, Pharaon et ses conseillers se sont demandé par quels moyens il fallait éliminer les garçons des Hébreux. Alors là aussi, il y a tout un débat dans les traditions. Est-ce qu'il faut les exterminer par le feu, par le glaive? Et à chaque fois, on trouve des arguments. Non, n'essayons pas de les éliminer par le feu, parce que Dieu a déjà fait tomber le feu sur Sodome. Vous voyez, on connaît les traditions et on ne respecte pas trop la chronologie. Mais on se dit que les éliminer par l'eau, ça ne risque rien, puisque Dieu a promis qu'il n'y aurait plus jamais de déluge. Voilà, donc les mages égyptiens savaient tout ça. Et finalement, ils ont décidé par conséquent de noyer les enfants des Hébreux en les jetant dans le Nil. Mais ça s'est retourné contre eux, puisque Moïse a été sauvé de l'eau, par l'eau, et par l'eau, les Égyptiens eux-mêmes étaient exterminés dans les eaux de la mer Rouge. Mais Moïse sera quand même châtié à cause de l'eau. Alors là, la tradition rebondit, puisque dans le désert, lorsque Dieu va lui demander de parler au rocher pour en faire jaillir de l'eau, Moïse, au lieu de parler au rocher, va parler au peuple pour l'accuser d'incrédulité, et ça, c'est pas bien. Et ensuite, il va frapper le rocher avec son bâton. Et on nous dit, là, il sera châtié à cause de l'eau. Donc le rapport de Moïse à l'eau est un rapport très, très complexe. Et le châtiment a été qu'il n'a pas pu entrer en terre d'Israël. Alors, comme on peut le remarquer, le récit de la naissance de Jésus dans Matthieu est plein de réminiscences de ces traditions sur la naissance de Moïse. D'abord, Joseph, comme Amram, le père de Moïse, est un homme juste, nous dit Matthieu, hein, chapitre 1, verset 19. Joseph était un homme juste. Il ne voulait pas la diffamer publiquement. Mais en fait, ce thème de Joseph juste renvoie aussi au premier Joseph, c'est-à-dire le fils de Jacob, qui est lui aussi qualifié de juste. Il est qualifié de juste parce qu'il a refusé de céder aux avances de la femme de Putiphar. On ne va pas raconter toute cette histoire, vous la connaissez peut-être. Nous avons parlé tout à l'heure de la sainteté de la mère de Moïse. Évidemment, rien n'a pas besoin de s'étendre longuement aussi sur la sainteté de la mère de Jésus. La naissance de Moïse avait été annoncée par des songes, et là aussi, Joseph a été averti en songe. Bon, peut-être même est-ce qu'on frôle la tradition de la répudiation de la mère de Moïse, puisque Joseph avait résolu de la répudier alors qu'elle était déjà enceinte. Le père de Moïse, lui, il l'a carrément répudiée, puis ensuite il l'a prise. Bon, évidemment, il n'y a pas d'identité, mais il y a quand même des ressemblances. Et puis, bien sûr, la ressemblance la plus évidente, c'est que, de même que Pharaon avait redouté la naissance de cet enfant et qu'il avait fait exterminer tous les garçons qui allaient naître à cette période-là, de même, Hérode a peur de la naissance du roi des Juifs. Et il fait exterminer aussi tous les innocents. Bon, Pharaon a consulté ses conseillers et ses astrologues, et Hérode a consulté les grands prêtres et les docteurs. Pharaon a fait massacrer les nouveau-nés, Hérode a fait massacrer les nouveau-nés. Donc il est bien évident que si Matthieu connaît ses traditions, il est évident qu'il les connaît, il insiste, il veut nous faire comprendre que Jésus est en quelque sorte le nouveau Moïse. Et il y a d'ailleurs un verset de son évangile appliqué à Jésus et qui est un décalque d'un verset concernant Moïse. Puisque en Exode, au chapitre 4, verset 20, dans la vision du buisson ardent, le Seigneur dit à Moïse, « Va, retourne en Égypte, car ils sont morts tous ceux qui cherchaient à te faire périr. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur un âne, je reviendrai sur cet âne tout à l'heure, et s'en retourna au pays d'Égypte. Moïse prit en main le bâton de Dieu. Et Matthieu écrit au chapitre 2, « Quand Hérode eut cessé de vivre, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte. Il lui dit, « Prends avec toi l'enfant et sa mère et rentre en terre d'Israël, car ils sont morts tous ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Et sur Moïse, il était dit, « Retourne en Égypte, car ils sont morts tous ceux qui cherchaient à te faire périr. » Et Moïse prit sa femme et son fils et les fit monter sur l'âne, et là il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et rentra en terre d'Israël. Il est évident que là, Matthieu, délibérément, a décalqué le verset de l'Exode pour appliquer à Jésus ce qui est dit de Moïse. Alors sur ce verset, je voudrais faire quelques remarques. D'abord, que c'est le texte le plus ancien, semble-t-il, où on trouve l'expression « terre d'Israël » hein, dans Matthieu. Puisque l'ange a dit à Joseph, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et rentre en terre d'Israël. » Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et rentra en terre d'Israël. « Gai Israël ». Il y a quelques années, il y a eu un livre à succès qui disait que cette expression de « terre d'Israël » était tardive et qu'on ne la trouvait pas avant le 2e ou 3e siècle. Alors voilà justement un cas où c'est le Nouveau Testament qui atteste l'existence d'une tradition plus ancienne que les sources rabbiniques elles-mêmes. L'autre point que je voulais souligner, il prit sa femme et ses fils, je reviens à Moïse maintenant, les mit sur l'âne et retourna au pays d'Égypte. Les mit sur l'âne et non pas sur un âne, comme on traduit quelquefois. Et il y a l'article défini, l'équivalent de l'article défini, Hahamor. Et la tradition rabbinique s'est arrêtée sur cet article en disant, puisqu'il y a l'article défini, qu'on ne dit pas un âne mais l'âne, Ça veut dire que cet âne est censé être connu du lecteur. Donc ça doit être un âne dont on a déjà parlé précédemment. Mais si vous tournez les pages de la Bible à l'envers jusqu'au début de l'Exode, vous ne trouverez pas d'âne. Il va falloir remonter jusqu'au chapitre 22 de la Genèse. L'âne que Abraham avait scellé de bonheur pour aller sacrifier Isaac, et on dit c'est le même. Voilà, puisqu'il est dit l'âne, c'est bien le même. Et puisque cet âne a déjà un passé prestigieux, il a forcément un avenir. Hein. Et voilà. Et c'est pourquoi le Midrash nous dit. Rabbi Berechia dit au nom de Rabbi Yitzhak, le dernier libérateur, je reviendrai sur ce mot aussi, agira comme le premier. Que fit le premier libérateur? Il est dit, Moïse prit sa femme et ses fils, et les mit sur l'âne. De même en sera-t-il du dernier libérateur, humble et monté sur un âne. Et il est clair pour tous ces textes rabbiniques, que c'est bien le même âne. Alors moi, ça me plaît beaucoup de voir qu'il n'y a pas de rédemption sans âne. Ça me réconforte quelquefois, parce que l'âne est l'auxiliaire de la rédemption. Voilà. Et il est là à tous les moments clés de l'histoire. Il était là avec Abraham, il est là avec Moïse, et il sera là avec le Messie. Et oui, je voulais faire une autre remarque sur ce mot « libérateur ». En grec, c'est lutrotes, on peut donc traduire par rédempteur. Et le seul personnage humain que le Nouveau Testament désigne par le titre de rédempteur, c'est Moïse. C'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 7, verset 35, je crois, dans le discours d'Étienne, il est dit que Dieu leur a donné un rédempteur, Moïse. Jésus n'est jamais appelé le Rédempteur dans le Nouveau Testament. Alors on dit qu'il est la rédemption, il est celui par qui s'accomplit la rédemption. Bon, je ne vais pas trop disserter sur ce mot lutrotes qui traduit plusieurs mots hébreux, mais en tout cas il y a un seul Goël, un seul être humain qui soit un Goël dans le Nouveau Testament, c'est Moïse. Hein, c'est dans donc, le chapitre 7 des Actes des Apôtres. Alors, c'est plus tard que dans la tradition de patristique et postérieure que Jésus sera appelé le Rédempteur. Mais dans le Nouveau Testament, on dit qu'il est la rédemption, ou qu'il est celui en qui la rédemption s'accomplit. Et le seul personnage humain qui soit appelé Rédempteur, c'est Moïse. Voilà. Alors je regrette beaucoup que Matthieu, quand il a composé le récit du retour de Joseph en terre d'Israël, n'ait pas fait mention de l'âne. Hein, parce que là, dans l'Exode, il est dit, il prit sa femme et ses fils, les mit sur l'âne et rentré en terre d'Israël. Et là, il est dit que Joseph a pris l'enfant et sa mère, il est rentré en terre d'Israël. Mais l'iconographie a toujours estimé que cet âne avait sa place dans toutes les représentations du retour de Joseph en Égypte. Voilà, puisque je n'ai pas épuisé mon temps de parole, je voudrais maintenant peut-être plus rapidement vous présenter une autre tradition qui, elle, peut être mise en regard d'un passage de l'Évangile de Luc. Elle concerne un personnage dont la Bible ne dit pratiquement rien. Elle en dit quand même quelque chose, sinon on n'en parlerait pas, mais presque rien. Ce personnage, c'est la fille d'Achère. Je ne sais pas si ça vous en dit beaucoup plus. Alors, Achère est un des fils de Jacob. Et dans le récit de l'arrivée de Jacob en Égypte, on nous dit qu'il est accompagné par ses enfants et ses petits-enfants, 70 en tout, mais on a beau faire le compte, on n'arrive jamais à trouver 70, ça tombe jamais juste. Et il y a les noms non seulement des 12, des 11 fils de Jacob, puisque le 12e est déjà en Égypte, mais les noms de leurs descendants, et ce sont tous des hommes, sauf un cas. C'est lorsqu'on énumère les enfants de Asher, donc le fils de Jacob qui s'appelle comme ça, on nous dit les fils d'Asher, Yimna, Yishva, Yishvi, Beria, et leur sœur, Serar. C'est la seule femme qui se trouve dans cette énumération, où il n'y a par ailleurs que des hommes. Et puis, on retrouve son nom dans le livre des Nombres, au chapitre 26, verset 47, où il y a la précision, la fille d'Acher se nommait Sérar. Et on a la répétition de cela dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 7, verset 30. Voilà, tout ce que nous savons sur cette femme, elle s'appelait Sérar. Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter là-dessus ? Je vous dis, la première mention, c'est lorsque Jacob descend en Égypte. Et la deuxième, dans le livre des Nombres, chapitre 26, qui énumère tous les descendants de Jacob qui sont sortis d'Égypte. Et là, on passe tribu par tribu, et puis on donne non seulement les noms des fils de Jacob, mais les noms de tous les descendants des fils de Jacob. Et lorsqu'on énumère tous les descendants d'Acher, on nous rappelle que la fille d'Acher s'appelait Sérar. Alors voilà, elle est arrivée avec Jacob en Égypte, puis elle est sortie d'Égypte avec Moïse. Et entre les deux, il s'est écoulé 4 siècles. Et elle est toujours là. Voilà. Donc là, ça vaut le coup quand même qu'on s'y arrête. Alors, elle a vécu 400 ans, au moins. Il y a même des traditions qui nous disent qu'elle était immortelle. Mais en même temps, ça contredit un verset de l'Exode qui nous dit au tout début du chapitre 1er, Joseph mourut ainsi que ses frères et toute cette génération. Mais pas toute cette génération quand même, puisque la fille d'Acher a survécu. Alors on s'est demandé pourquoi elle avait vécu 400 ans. C'est évidemment au nom d'une disposition divine providentielle. Alors je résume les traditions. Je ne vais pas les raconter toutes parce qu'elles sont en fait très abondantes. Mais il nous est dit que sans la fille d'Acher, Moïse n'aurait pas pu remplir sa mission. Parce qu'il n'aurait pas pu être reconnu comme le sauveur d'Israël. Et dans le récit de l'apparition de Dieu à Moïse au buisson ardent, on a cette phrase, c'est Exode 3, 16. Dieu a demandé à Moïse d'aller réunir les anciens d'Israël, et il lui dit « Va et réunis les anciens d'Israël, et dis-leur, le Seigneur, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il m'a dit, je vous ai visité et j'ai vu ce que l'on vous fait en Égypte. Ils écouteront ta voix et vous irez, toi et les anciens d'Israël, trouver le roi d'Égypte. » Alors voilà comment on interprète ce passage, sans faire aucune violence au texte. Dieu a dit à Moïse, va et réunis les anciens d'Israël et dis-leur, le Dieu d'Abraham, le Dieu de vos pères m'est apparu, et il m'a dit, je vous ai visité. Ils écouteront ta voix. Alors on comprend comme ça, Dieu dit à Moïse, écoute bien ce que je vais te dire, et si tu répètes littéralement la formule que je te dis maintenant, ils entendront ta voix. On en conclut donc que dans la formule que Dieu prononce à ce moment-là, il y a le signe de reconnaissance, la formule codée, qui va permettre de reconnaître que Moïse est bien le sauveur d'Israël qui était attendu, que ce n'est pas un imposteur. Alors, quelle est cette formule codée ? Je viens de lire ici une traduction. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu, il m'a dit « Je vous ai visité ». On ne peut pas traduire autrement. Mais en hébreu, il y a un redoublement du mot « visiter ». Alors, c'est une forme caractéristique de l'hébreu biblique. On emploie le verbe à l'imparfait d'abord et ensuite à la forme conjuguée. Donc, si je veux traduire littéralement pour faire comprendre, visiter, ER, je vous ai visité. Visiter, je vous ai visité. Hein? On a ça aussi, par exemple, si vous mangez du fruit, mourir, vous mourrez, et ainsi de suite. Alors, on en conclut que c'est le redoublement du mot visiter qui est le signe de reconnaissance qui doit permettre de reconnaître le sauveur d'Israël. Et donc, nous disent les traditions, lorsque Moïse, après avoir réuni les anciens d'Israël, va leur dire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est apparu, et il m'a dit, visitez, je vous ai visité, que font les anciens d'Israël ? Ils vont trouver la fille d'Acher. en disant, il y a quelqu'un qui nous dit que Dieu lui a dit ça. Et la fille d'Asher dit, en effet, c'est bien la formule que j'avais reçue de mon père. Je résume, évidemment. Qu'est-ce qui permet de dire que cette formule a été transmise de père en fils? Là aussi, c'est basé sur des détails du texte. Avant de mourir, Joseph avait dit à ses frères, Dieu visité vous visitera. Et puis là, maintenant, Dieu apparaît en disant, visitez, je vous ai visité. Donc la prédiction de Joseph s'accomplit. Et Joseph, avant de mourir, dit, dans les traductions en tout cas, on dit, Joseph dit, je vais mourir. En réalité, il dit, je suis mort. Hein? Anorimet. Et Jacob avait déjà dit ça avant de mourir. Donc on en conclut que la mort de Joseph est une réplique de la mort de Jacob. Alors de là, une chaîne de tradition qui reconstituait, il y a peut-être des maillons qui manquent aussi dans la chaîne. C'était le code, la formule codée de reconnaissance, transmise, enfin confiée par Abraham à Isaac, par Isaac à Jacob, par Jacob à ses fils, et le dernier survivant, ou la dernière survivante, c'est évidemment la fille de Asher. Alors voilà, donc si Moïse a pu être reconnu comme le sauveur d'Israël, c'est parce que la fille d'Asher connaissait la formule codée. Et puis, c'est aussi grâce à la fille d'Asher que Moïse a pu respecter les dernières volontés de Joseph qui avait demandé que son corps ne reste, ou que ses ossements ne restent pas en Égypte. Quand Dieu vous visitera, vous ferez remonter mes ossements d'ici, avait dit Joseph. Parce qu'évidemment, rien d'Israël ne doit rester en Égypte, tout doit remonter en terre d'Israël. Alors, le texte de l'Exode nous dit, Moïse prit avec lui les ossements de Joseph. Et le Midrash paraphrase ou commente cela. Mais d'où Moïse savait-il où Joseph était inhumé? Parce qu'évidemment, il est dit, Joseph est mort et on l'a enterré en Égypte. Mais l'Égypte, c'est grand, on n'a pas la précision. On a raconté que Sarah, la fille d'Asher, était survivante de cette génération. Et que c'est elle qui montra à Moïse la sépulture de Joseph. Elle lui dit, les Égyptiens lui ont fait un cercueil de métal et l'ont immergé dans le Nil. Moïse vint, se tint au bord du Nil, prit une tablette d'or, y grava le nom explicite, c'est-à-dire le nom ineffable de Dieu, et la jeta dans le Nil en criant, Joseph, fils de Jacob, il est venu, le temps de l'accomplissement du serment que le Saint, béni soit-il, a fait à Abraham, notre père, de racheter ses fils. Si tu montes, c'est bien, sinon nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Et aussitôt, le cercueil de Joseph monta à la surface et Moïse le prit. Voilà. Alors, il y a une variante qui développe ça de façon plus solennelle encore. Donc, Moïse va dire, Joseph, Joseph, l'heure est venue pour le Saint, béni soit-il, de délivrer Israël d'Égypte. La Shérina t'attend, Israël t'attend, les nuées de la gloire t'attendent, tout le monde t'attend. Si tu te manifestes à nous, c'est bien, sinon nous serons quittes du serment que tu as fait jurer à notre père. Bon. Et effectivement, Moïse donc a pu emporter les ossements de Joseph et les inhumer près de Sichem. On nous dit aussi que Sérar n'a pas goûté la mort. Alors là, il y a un récit assez pittoresque. On nous dit que Rabbi Yohanan, donc un sage du IIIe siècle, était assis et il commentait, il expliquait la sortie d'Égypte. Il expliquait comment les eaux formaient-elles une muraille pour Israël. Rabbi Yohanan expliqua, comme ces haies, ça devait se passer en plein air, donc il montre des haies. Sérar, la fille d'Asher, apparut et dit, j'y étais, et ce n'était pas ainsi. Mais comme des fenêtres qui répandent la lumière. Alors, avant d'en arriver à l'évangile de Luc, bon, j'insiste, je voudrais souligner quelque chose, quelques points. D'abord, ça explique les méthodes de ces commentaires rabbiniques et l'esprit qui les anime. Ce qui apparaît comme une anomalie du texte biblique, c'est-à-dire deux mentions du même personnage à 400 ans d'intervalle, attire l'attention sur une donnée. qui semble d'autant plus importante qu'elle paraît aberrante. Alors nous, on dirait erreur de scribe ou texte corrompu ou je ne sais pas quoi. Là, au contraire, on se dit, là, il y a quelque chose d'important. Donc, il faut s'y arrêter. Et ensuite, je remarque qu'on a composé, à partir des données sur la fille d'Acher, de ces données vraiment réduites au minimum, une figure féminine qui joue un rôle clé dans les événements de la sortie d'Égypte, puisque Moïse n'aurait pas pu remplir sa mission, il n'aurait pas pu être reconnu comme le sauveur d'Israël si elle n'avait pas été là. Et d'une certaine manière, elle personnifie la continuité du peuple d'Israël entre la génération des patriarches et la génération de l'accomplissement de la promesse, entre Jacob et Moïse, alors que toute la génération qui était sortie d'Égypte a péri dans le désert. Alors, quel rapport maintenant avec le Nouveau Testament? Eh bien, il y a une fille d'Acher dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est la prophétesse Anne qui se trouve au temple lorsque Jésus est présenté au temple. Elle est très avancée en âge, nous dit-on. Elle n'a pas 400 ans quand même. Mais enfin, elle est quand même très âgée. La présence de cette fille d'Acher, de cette descendante d'Acher dans le temple à l'époque de Jésus a toujours embarrassé les commentateurs. Alors certains avouent leur embarras lorsqu'ils arrivent à ce passage de Luc et puis d'autres sautent purement et simplement à pieds joints par-dessus la mention une prophétesse de la tribu d'Acher. Pourquoi ? Parce que la tribu d'Acher faisait partie du royaume du Nord et que le royaume du Nord a disparu en 731 avant notre ère. Il n'y a plus de tribu d'Acher. Une ultime mention de la tribu d'Acher au temps de Josias, parce que c'est quand même très ancien, lorsqu'on nous dit que quelques survivants sont venus célébrer la Pâque à Jérusalem. Or, et là, dans le Nouveau Testament, il n'est jamais question de la tribu d'Acher, sauf évidemment dans l'Apocalypse, quand on dit que le voyant a vu 12 000 de chaque tribu. Donc là, il y a la tribu d'Acher. Il y en a une qui saute parce qu'on n'arrive jamais à 12. Alors comme on veut mettre Ephraïm et Manassé, ça doit être Gad, je crois, qui a été omis, ou Dan, un des deux. Mais en dehors de cela, dans le Nouveau Testament, il n'y a que trois tribus qui soient représentées. La tribu de Judas, bien sûr, puisque tous les Juifs, théoriquement, sont des descendants de Judas. Il y en a qui savent qu'ils descendent de Benjamin. L'exemple le plus illustre, c'est saint Paul, qui est très fier de dire « Je suis de la tribu de Benjamin », qui était resté accroché au royaume du Sud. Puis, bien sûr, la tribu de Lévi, forcément, parce qu'il y a toujours des Lévites, ce qui est le cas de Zacharie, par exemple, et de Jean-Baptiste. Mais on ne nous parle jamais dans le Nouveau Testament de gens de la tribu de Zabulon, d'Issacar, ou de Gan, ou d'Acher. Alors, il me semble que la seule explication de la présence d'une femme de la tribu d'Acher dans le temple lorsque Jésus y est présenté, c'est que c'est la fille d'Acher qui est là pour reconnaître et authentifier le sauveur d'Israël. Et dans les tout premiers chapitres de Luc, on trouve deux fois le mot « visiter ». Dans le cantique de Zacharie, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. » Et au dernier verset, « L'astre d'en haut nous a visités. » Et il n'y a que trois cas, trois occurrences du mot « visiter » dans l'évangile de Luc. Le troisième cas, c'est à propos de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ce sont les seuls cas. Alors voilà, donc j'ai recueilli ces éléments et ça me paraît quand même très très impressionnant que lorsque Jésus est présenté au temple, dans le contexte de la naissance et de l'enfance de Jésus, il y a une fille d'Acher et deux occurrences du mot « visiter ». Une fille d'Acher, il y a deux fois le mot « visiter », le compte est bon, le temps de la rédemption est arrivé. Voilà. Alors, vous voyez, ça fait partie de ces choses qu'on découvre sans les chercher. Lorsqu'on travaille sur la tradition juive, et ça ouvre des perspectives absolument inattendues. Voilà, je vous félicite pour votre patience et votre endurance. On n'est pas obligé d'être convaincu.
Il est très difficile de rebondir sur des histoires aussi extraordinaires. Mais il est vrai aussi que c'est surprenant et c'est pas la première fois que où j'entends ou je lis comme cela des choses qui me touchent de voir ce qui a été écrit avant, ce qui est écrit après. Mais ce que vous disiez aussi d'intéressant, c'est qu'on peut retourner les textes aussi, dans le temps.
Oui.
Et ça, c'est assez fantastique. Et ce soir, je crois que dans toutes nos soirées, tout ce que nous avons pu écouter jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses années, je crois que c'est très nouveau, n'est-ce pas ? Je crois qu'on n'avait jamais entendu une interprétation comme la vôtre de ces textes, de ces deux traditions. Et c'est extrêmement touchant parce que de retrouver ainsi quelque chose qui se continue, qui se renouvelle, vraiment, moi je suis très touchée par ce que j'ai entendu ce soir. Et je vous remercie parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, je pense, hein, c'est très nouveau. Parce que les détails aussi sont... Les Midrashim, bon, ben déjà le monde non-juif ne les lisent pas spécialement, mais même le monde juif, ce n'est pas évident à lire, c'est toute une étude. Alors, je sais qu'il y a des amis ici très sans problème qui doivent bien connaître tout cela, mais c'est touchant de voir que dans le Nouveau Testament, de retrouver... Alors, est-ce que les apôtres qui écrivaient connaissaient tellement bien le Premier Testament et ont trouvé tous ces liens? Que dites-vous de cela?
Je dis que les auteurs du Nouveau Testament baignaient dans une culture qui était
meilleure, oui.
C'est celle-là. Et alors, il y a une phrase que je cite souvent parce qu'elle m'a convaincu. C'est une formule d'un spécialiste du Targum qui est décédé il y a quelques années, que j'ai connu, parce que il était enseignant quand j'étais séminariste à Rome, et il a passé sa vie à travailler sur le Targum. Il avait cette formule qu'il répétait souvent, aussi bien oralement que par écrit. Il disait « Les chrétiens ont reçu des juifs une Bible interprétée. » Une Bible interprétée. Ils n'ont pas reçu seulement le texte biblique, mais ce texte biblique était indissociable de son commentaire. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque du Nouveau Testament et bien après, l'Écriture était connue oralement par les gens. Bon, bien sûr, il y avait des collections de rouleaux dans les synagogues, mais enfin, les gens n'avaient pas la Bible chez eux en livre de poche sur leur étagère. Et par conséquent, ils la connaissaient à travers la lecture qu'ils entendaient le samedi à la synagogue, et cette lecture, au moins en terre d'Israël, était accompagnée d'une traduction en araméen. Mais cette traduction était généralement une paraphrase beaucoup plus ample que le texte. Je cite toujours cet exemple, mais je n'ai jamais été démenti. Les confrères qui exercent leur ministère en Afrique connaissent bien cette situation lorsque le prêtre ne parle pas toutes les langues de ses paroissiens. Il y a des pays où il y a de nombreuses langues. Il dit ce qu'il a à dire dans la langue qu'il connaît, puis un catéchiste traduit. Les traductions sont toujours plus longues que l'original, inévitablement, puisqu'on traduit pour que les gens comprennent, et donc quelquefois on amplifie la traduction par une paraphrase. Alors, c'est intéressant de voir aussi comment les textes bibliques sont cités dans les sources juives. On a indifféremment la formule « comme il est écrit » ou « comme il est dit » chez Néhémar. Et il y a même quelquefois une formule que je trouve plus intéressante encore, « comme tu dis ». C'est-à-dire que l'interlocuteur est censé connaître par cœur le texte. Alors évidemment, si je dis à quelqu'un « comme tu dis, je suis le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte », c'est bien qu'on ne le prend pas pour le Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte. Mais je veux dire que la parole, elle est sur les lèvres, elle n'est pas seulement sur le papier. Donc, alors moi je retiens vraiment cette formule, elle est importante, parce que que, c'est-à-dire les chrétiens ont reçu une Bible interprétée, c'est-à-dire que l'interprétation qui était commune de leur temps est indissociable du texte lui-même. Et vous avez des citations, hein, des passages d'évangiles où on dit « comme dit l'Écriture », et l'Écriture ne dit pas ça, mais « comme dit l'Écriture », telle qu'on la comprend dans la tradition communément reçue. Là, j'ai cité le cantique de Zacharie, on disait ça tout à l'heure en venant, c'est un exemple que je cite très volontiers aussi. Dans ce cantique de Zacharie, on a la formule « Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham. » Mais les noms des trois personnages sont cachés là-dedans. « Dieu a fait miséricorde, Yohanan, Jean. » Le Seigneur se souvient, Zaharia, Zacharie, Dieu a fait serment, Elie, Sheva. Vous pouvez lire le texte en traduction 50 fois, vous verrez.
C'est magnifique. Je pense que vous avez à rebondir, n'est-ce pas, sur cette conférence, sur tout ce qu'on a pu apprendre ce soir, parce que vraiment, et peut-être êtes-vous trop étonné de cela, parce que c'est vrai, ça ressemble presque à un conte, et puis le Midrash, c'est mais cela
évidemment,
aussi.
On peut
le voir ainsi, et pourtant tout est écrit, et dans la Torah, avec les lettres hébraïques et l'hébreu, et là aussi il y a ce travail remarquable que vous savez faire, et malheureusement, on est très peu, très très peu savent faire. Non.
Merci, puisque Jean-Albert n'est pas là. Habituellement, c'est lui qui commence, donc je vais commencer. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que vous pouvez... Sur le site de l'Amitié judo-chrétienne, je vous ai mis pour les nouveaux... Non, mais je ne veux pas parler de la conférence, mais que vous pouvez consulter dans la page Amitié judo-chrétienne nationale, donc sur le site qui renvoie au site national, vous pourrez trouver un texte de Jean Massonnet, le président de l'Amitié judo-chrétienne de Lyon, qu'on a reçu ici. Et le site de l'Amitié judo-chrétienne de Lyon me sert souvent. Je mets beaucoup de liens vers le site de l'Amitié judo-chrétienne de Lyon. Mais sur le site donc de l'Amitié judo-chrétienne nationale, vous pourrez trouver un texte de près de 4 pages de Jean Massonnet au sujet du père Renaud, et je vous assure que c'est extrêmement intéressant. Ensuite, pour celles et ceux qui ont l'habitude de venir, qui me connaissent, vous savez que je fais toujours un travail avant de venir, et ensuite j'essaye de confronter le travail que j'ai préparé avec ce que j'ai entendu. Et ce soir, il y a 3 résonances. Il y a une chose que je veux dire au préalable, et puis 3 résonances dont les 2 dernières sont très très étonnantes. Donc la première, j'ai trouvé extrêmement intéressant ce que vous avez dit au sujet de Myriam. Parce que Myriam, elle a su trouver les mots pour interpeller son père. Vous avez dit que le père de Moïse était l'homme le meilleur. Et pour moi, ce qui justifie ce qualificatif d'homme le meilleur de son temps, c'est qu'il a su écouter et entendre ce que sa fille lui disait. Ce qui n'est pas forcément évident dans ce sens-là. Il a su entendre au sens de comprendre les conséquences du choix qu'il avait fait et entendre au sens de corriger radicalement son choix. Et c'est quelque chose, c'est un enseignement dont on peut se souvenir chacun chaque jour. Les 3 résonances. La première, c'est l'eau. Le rapport de Moïse avec l'eau. Alors, vous avez dit que c'est très complexe, et effectivement, c'est très complexe. Moi, je voudrais ici voir la résonance du côté positif. Et résonance avec Annick de Souzenel. Annick de Souzenel dit que l'eau est le potentiel divin en l'homme. L'eau est la vie. Et pour les Hébreux alors, et je crois pour les Juifs encore aujourd'hui, Moïse est celui en qui le potentiel divin s'est incarné de façon inouïe. Pour les Hébreux, Moïse signifiait s'inscrire dans une dynamique de vie, même s'ils n'ont pas toujours admis cela. Et je crois qu'aujourd'hui, quand les Juifs disent « Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître », est-ce qu'on ne peut pas entendre « notre maître de vie, notre maître qui nous enseigne la vie ». Puis alors, deux résonances extrêmement intéressantes. L'âme et le rédempteur. Très, très intéressant. Leibowitz. Leibowitz a toujours exhorté chacun, ça c'est quelque chose qu'on pourrait graver sur la paume de nos mains, exhorter chacun à prêter attention à l'âme. Il disait « Veillez à sceller votre âme ». Ce qui doit être compris ainsi, veillez à maîtriser votre matérialité. Mais là où c'est encore plus étonnant, c'est qu'il fait un lien entre la rédemption et l'âne. Il dit que l'essence même de la rédemption messianique réside en ceci, que l'homme vint, V-A-I-N-C, c'est-à-dire triomphe, de sa nature humaine, c'est-à-dire celle son âme, c'est-à-dire maîtrise sa matérialité. Donc, merci pour ces résonances.
Il y a un passage du Talmud qui dit « Celui qui voit un âne en songe, qu'il attende le salut. »
Moi, c'est peut-être un peu naïf, mais pourriez-vous nous expliquer, en tout cas m'expliquer, la différence entre le rédempteur et la rédemption ? Puisque là, j'ai le sentiment que c'est, dans ce que vous dites, c'est vraiment différent. Ou en tout cas, le mot étant presque le même, quelle subtilité dans ce que vous avez d'ailleurs dit.
Non, j'ai simplement voulu souligner le fait que le Nouveau Testament ne désigne jamais Jésus comme le Rédempteur.
Voilà.
Alors que le Nouveau Testament dit qu'il y a un Goël, c'est Moïse. Enfin, un Goël, oui. Le Nouveau Testament le dit en grec. Mais... Non, ça ne va pas plus loin que ça. J'ai simplement voulu souligner que ce terme de rédempteur, en fait, il est chargé d'une signification dans la tradition juive. Moïse a été le sauveur d'Israël, effectivement. Et que cette attribution à Moïse du terme de rédempteur est encore présent et attesté par le Nouveau Testament. Non, je n'ai pas voulu aller plus loin que ça. J'ai simplement voulu, là aussi, dire qu'il y a des idées simples que nous avons dans la tête et qui sont fausses. Puisque Jésus n'est jamais appelé le rédempteur. Mais il est celui en qui la rédemption s'accomplit. Je me répète en disant cela, je ne vous réponds pas, je suis bien conscient de ça.
Mais... Pourtant, effectivement, est-ce que... Pour le monde chrétien, Jésus est le sauveur.
Le rédempteur, c'est Dieu lui-même dans l'Écriture. Ça, dans les psaumes, c'est bien, c'est Dieu.
Et pourtant, j'ai cru entendre que Jésus était le sauveur.
Oui.
Donc le rédempteur.
Oui, mais je me suis arrêté uniquement sur l'emploi du mot. Le mot lui-même. Et le mot rédempteur n'est pas attribué à Jésus dans le Nouveau Testament, alors qu'il est attribué à Moïse. Mais encore une fois, avec cette réserve que... On a un mot grec qui est lutrotes qui traduit plusieurs mots hébreux. C'est-à-dire qu'il est au confluent de la signification de Goël essentiellement et de Pada, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Pagal et Pada. Enfin là, on entrerait dans des explications.
Peut-être.
Excusez-moi, je suis désolé que vous avoir réduit au silence ou au mutisme.
Je pense qu'il y a des réflexions qui sont en train de se faire le temps.
Oui, moi j'étais assez perturbée en fait par le sens de la tradition elle-même. Parce que vous avez donné plusieurs sens à la tradition. Soit être très fidèle au texte, soit s'en éloignant, soit une tradition qui a une origine indépendante. Alors, en pensant à Matthieu, je me suis dit, est-ce qu'il récupère la tradition à son compte pour faire passer son message ? Est-ce que le rôle de la tradition, ça peut être ça ? Parce que finalement, à un moment donné, vous avez bien fait une comparaison entre l'Ancien, le dit Ancien Testament et le dit Nouveau Testament, et on a l'impression presque d'un copier-coller d'événements. Et je me suis demandé si Matthieu s'était servi de cet Ancien Testament pour une meilleure annonce.
L'exemple que j'ai cité, c'était bien ça, c'est-à-dire Matthieu fait pratiquement un décalque d'un verset de l'Exode concernant Moïse pour l'appliquer à Jésus. Donc c'est plus qu'un clin d'œil pour nous dire effectivement que Jésus, maintenant, est celui qui accomplit la vocation ou la mission de Moïse. Non, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question.
Je me suis posé la question du sens de la tradition. Est-ce que c'est...
Oui.
Ou alors c'est moi qui m'exprime mal. Oui. Mais je me suis posé vraiment la question fondamentale du sens de la tradition. Cette tradition est-elle réelle ou est-elle factuelle finalement ? Est-ce que c'est, pour, de la part de Matthieu, se servir de la tradition pour faire passer son message? Mais là, je suis un peu provocatrice quand je dis ça. Non, je me fais mal comprendre.
Si, mais je crois que Matthieu, délibérément, en effet, veut souligner les comparaisons entre Moïse et Jésus, non seulement ce qu'autorise le texte biblique tout seul, mais plus largement le texte biblique interprété et étoffé de toutes ces tradition que j'ai évoquée tout à l'heure. Non, je pense que délibérément, Matthieu, effectivement, veut souligner les ressemblances.
Oui, c'est ça, c'est souligner les ressemblances. Et il est beaucoup écrit dans le Nouveau Testament pour que la parole s'accomplisse.
Oui. Vous savez, ce livre a été préfacé par une exégète qui s'appelle Anne-Marie Pelletier, que je ne connais pas. Enfin, j'ai rencontré une fois depuis, mais c'est l'éditeur qui a pris l'initiative de lui demander. Et elle définit justement la notion même d'accomplissement. Voilà. Ce n'est pas ruiner la portée que lui reconnaît le christianisme que de rappeler combien la tradition pharisienne est familière de cette réalité de l'accomplissement qu'elle interprète d'une triple manière, comme accomplissement exégétique qui consiste à ouvrir le sens des Écritures grâce au labeur de l'étude, comme accomplissement pratique dans l'agir en fidélité avec le sens que l'on a identifié. Donc l'accomplissement, c'est d'une part l'explication et ensuite traduire cela dans la pratique. Et enfin, comme accomplissement de l'histoire, quand la réponse aux promesses de la Torah et des prophètes s'inscrit dans celle-ci. C'est-à-dire que l'écriture est toujours ouverte sur une autre réalisation que ce que dit le sens littéral. Vous savez, là aussi, c'est une chose qui surprendrait sûrement beaucoup de chrétiens. On imagine la tradition juive comme quelque chose de figé, alors que c'est quelque chose qui est au contraire très vivant. Et il y a une notion qui est très intéressante, c'est la notion de renouvellement, de ridouche en hébreu. J'aime beaucoup cette histoire qu'on trouve dans un midrash sur l'Exode. C'est l'histoire de deux élèves, deux disciples qui étaient à l'office de la synagogue et qui, en rentrant chez eux, passent chez un rabbi qui n'a pas pu venir, parce qu'il était malade, je ne sais pas. Et le rabbin leur demande qui aujourd'hui a fait la prédication. Et puis les disciples n'osent pas répondre en présence d'un maître important, et donc l'autre insiste, qui a fait la prédication? C'est le rabbi Eléazar ben Azaria. Et qu'est-ce qu'il a dit de nouveau? Alors, là encore, les disciples sont un peu coincés, ils n'osent pas répondre, mais le maître insiste. Mais il n'est pas possible qu'il n'ait pas dit quelque chose de nouveau. Alors finalement, les disciples disent, il a dit ça, je ne me rappelle plus ce qu'il a dit maintenant, et l'autre dit, mais voilà, j'aurais pu mourir sans avoir entendu ça. Donc on a le devoir de toujours trouver une nouvelle signification dans l'écriture. Alors c'est pour ça qu'il y a bien un saut qualitatif, effectivement, d'un point de vue chrétien, entre l'Ancien Testament et le Nouveau, mais même cela s'inscrit dans une dynamique qui est celle du judaïsme, qui est une dynamique d'ouverture et de renouvellement, d'ouverture à une nouveauté d'interprétation. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question.
Et je vous remercie beaucoup parce que ça m'éclaire beaucoup. Ouais. Merci.
Oui, moi j'aurais repris la question aussi d'une autre manière. On voit souvent dans l'Évangile ainsi s'accomplit ou ainsi s'accomplissent les Écritures. Et moi je trouve souvent réagi en lisant ça comme une espèce de provocation un peu polémique. C'est-à-dire qu'on peut toujours trouver dans l'Écriture ou dans la Bible quelque chose qu'on va coller sur ce qui vient de nous arriver. Et ça démontre bien que j'ai raison dans le récit que j'en fais. Mais ce que vous dites, c'est un peu plus éclairant, parce qu'il n'y a pas que ce collage, c'est surtout une manière d'habiter l'Écriture, je pense.
Tout à fait. On a même, des scènes qui nous sont racontées dans les récits talmudiques où un rabbi va être témoin d'une scène et tout d'un coup il dit « Ah, ça y est, maintenant j'ai compris. J'ai compris ce que veut dire tel verset. » Parce que jusqu'à maintenant, il y avait un verset qui lui paraissait, il ne voyait pas ce que ça pouvait vouloir dire. Puis tout d'un coup, il est témoin d'une scène, il se dit « Maintenant, ça y est, j'ai compris. Ah, » voilà. Oui. Ah, monsieur demande le micro. Oui.
C'est la même chose pour ceux qui veulent vivre leur foi, c'est-à-dire on parle des évangiles, on peut les étudier toute sa vie, mais si on n'essaie pas de les vivre, c'est en les vivant qu'on découvre vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Si on fait que lire, ça ne suffit pas, il faut être dans l'action. C'est ce que nous demandait d'ailleurs pour les chrétiens Jésus, faites ce que j'ai fait, suivez mon exemple, suivez mon chemin. Et alors, je pense qu'en avançant sur ce chemin-là, on comprend des choses qu'on n'a jamais comprises. Et un jour, on dit, tiens, on lit un texte, on dit, bah, tiens, là, j'ai compris ce que ça voulait dire. Mais s'il n'y avait pas eu l'action avant, on n'aurait peut-être pas compris. Et ce que vous disiez du rabbin, il a vu une action. Il a compris quelque chose aussi. Et je crois que c'est le chemin. Le chemin, c'est l'étude, mais c'est vraiment d'aller et d'agir autour de nous, auprès des gens.
Je crois que c'est vrai pour chacun d'entre nous. Je veux dire qu'il y a des choses, des textes qu'on aura lus des dizaines de fois, et puis il y a un jour, il se passe une rencontre entre le texte et notre propre expérience. Et là, du coup, ça... Alors, je pousserai cela un petit peu plus loin encore en disant, je pense que même dans l'histoire de l'Église, il peut y avoir des choses comme ça. C'est-à-dire que des situations historiques nouvelles peuvent nous aider à découvrir mieux le sens de tel ou tel passage ou parole d'Écriture. C'est pourquoi je pense que ce qui s'est passé, concernant Israël, il y a 70 ans, peut-être peut nous permettre aussi de comprendre des choses qui n'étaient pas compréhensibles avant, concernant la vocation d'Israël. Mais voilà, c'est un autre sujet.
Il est certain que nos lectures, tous les Shabbats de la Torah, et ces 52 semaines, on se dit, on relit tout le temps la même chose, mais pas du tout. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, l'interprétation n'est jamais la même de la part ou du rabbin ou d'autres. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas les mêmes devant le texte. C'est surtout ça, je crois que chaque moment où nous lisons, nous sommes différents dans ce que nous avons vécu à l'extérieur de nos vies. Et là, tout à coup, oui, il y a un éclairage qui se fait. Et ça, c'est extraordinaire. C'est l'évolution de la conscience aussi, cette ouverture qui se fait. Mais là, c'est plus puissant ce que vous nous avez raconté ce soir. Parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est dit et qui se redit avec des siècles et des siècles après, dans une autre histoire. Et malgré tout, lorsque vous avez raconté au départ, moi je ne suis pas catholique, bon, j'ai lu les évangiles, mais pas aussi puissamment que vous tous. J'ai tout de suite fait le lien avec l'histoire de Jésus. Tout de suite. Et avec Marie, avec l'eau et le baptême. Parce que, nous, on a le mikvé. Normalement, ce mikvé, il est régulier pour les femmes tous les mois, pour les femmes juives. Et puis... à chaque grande fête, avant un mariage, etc. Ce mikvé, c'est le bain. Je pense que le cousin de Jésus, lorsqu'il a baptisé Jésus dans le Jourdain, c'était une forme de mikvé, parce qu'il l'a plongé complètement. Et là, les mikvés, c'est complètement. On est vraiment dans l'eau de source, en plus de l'eau de source, même aujourd'hui, dans notre histoire. Et là, l'eau, est-ce qu'il n'y a pas cette symbolique aussi, qui est une immense symbolique, l'eau, dans la tradition juive, effectivement. Est-ce qu'on peut la lier aussi au baptême?
Évidemment.
Voilà. Donc c'est une suite, c'est une suite extraordinaire.
L'eau, il y aurait de quoi s'occuper beaucoup plus que pendant une soirée.
Oui, c'est ça. Moi, ce que je trouve assez fantastique, c'est aussi ces mouvements de sauveur du monde. Avec, y a Abraham qui a sauvé d'une certaine façon, puisqu'il nous a fait connaître le monothéisme. Mais après, il y a Moïse. Et puis Jésus, bon, même il n'est pas reconnu dans le monde juif, mais je ne vais pas dire pour qu'il ait autant de succès, vu les milliards d'êtres humains qui connaissent Jésus et qui le respectent, je pense, et qui le prient. Je pense qu'il y a quelque chose de puissant qui a dû, qui doit exister. Et la question de dire pourquoi.
Vous parlez d'Abraham, je me dis souvent, heureusement que Dieu n'a pas exigé d'Abraham qu'il y ait 51% de justes à Sodome.
10, voilà. D'autres réactions?
Du baptême, chez nous, c'est une renaissance. Mais quand on est d'une maman, on est dans l'eau. Il y a les eaux qui viennent, qui accompagnent le bébé. Il y a les eaux du bébé. C'est numéro un.
D'ailleurs, là aussi, sans aucune publicité littéraire, c'est l'eau. On rend grâce pour l'eau dans la deuxième des bénédictions du chemin des Esrei. Alors, pendant l'hiver, enfin, ce qu'on appelle l'hiver, c'est la période qui va de Sukkot à Pessah. Et on rend grâce pour l'eau de la pluie et on rend grâce pour la rosée pendant la période où il ne pleut pas, en principe. Et vous avez de très très beaux textes sur le lien entre la rosée et la résurrection, la rosée et l'instrument de la résurrection. C'est par la rosée que Dieu ressuscite les morts. Alors il y a des choses assez... C'est basé sur un verset d'Isaïe d'ailleurs, qui associe rosée et résurrection dans le même verset. On dit par exemple que lorsque Dieu a commencé à donner le décalogue, il a parlé trop fort, et tout le monde est mort. Alors il a fait descendre la rosée, il les a ressuscités, il a parlé moins fort. Bien.
Est-ce qu'il y a encore des personnes qui auraient envie d'exprimer quelque chose? Bien.
Oui,
Patrick.
Alors, oui, justement, là, vous parlez du lien entre la rosée et l'Esprit Saint. J'avoue que j'en veux au traducteur liturgique, parce que dans l'épiclèse, c'est-à-dire l'invocation sur les dons à la messe, qu'on appelle l'Esprit Saint, dans la prière eucharistique numéro 2, nous lisons « Sanctifie ces offrandes par la puissance de ton esprit ». Et c'est une mauvaise traduction, parce que le texte original dit bel et bien « Sanctifie ces offrandes par la rosée de ton esprit ». On a dû penser qu'aujourd'hui, les gens ne vivent pas à la campagne, ils ne savent pas ce que c'est que la rosée. En tout cas, en hébreu, quand je disais la messe en hébreu, c'était toujours la rosée, non pas la puissance. Oui.
Je suis frappé, moi, par la permanence de... Tout à l'heure, on a parlé de l'âne, qui était déjà présent au temps d'Abraham, qu'on voit à plusieurs reprises dans la Torah, et qui revient finalement au moment de la naissance de Jésus, puisqu'il y a l'âne et le petit mouton qui étaient au niveau de la crèche. Et je suis surpris, est-ce que c'est ce même âne qui est toujours là? Et on a parlé récemment avec Gérard Manon de l'âne aussi qui se perdait, enfin, qu'est-ce qu'on doit faire? Enfin, on doit rechercher l'âne lorsqu'il s'est perdu. Bon, je demandais le lien entre tous ces...
L'âne n'est pas présent dans les récits de la nativité. Ça, c'est le folklore qui a rajouté l'âne. Oui. Mais il y a quand même un texte rabbinique que je citais quelque part là-dedans qui dit que le bœuf est le symbole d'Éphraïm et que l'âne est le symbole de Juda. Donc, d'une certaine manière, le bœuf et l'âne représentent tout Israël. Par contre, il y a une chose très intéressante, c'est dans les commentaires sur le chapitre 22 de la Genèse, donc l'Akeda, la ligature d'Isaac. C'est intéressant parce qu'on part, on est cinq au départ. Il y a Abraham, Isaac, les deux serviteurs et l'âne. Et puis le troisième jour, Abraham dit aux serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le garçon, nous irons jusqu'à Tko, donc jusque-là. Alors, là aussi, on s'est posé la question, pourquoi le troisième jour, Abraham dit aux serviteurs, restez ici avec l'âne. Alors le Midrash imagine quelque chose. Abraham a vu une nuée posée sur la montagne, donc le signe de la présence divine, et il a compris que c'était là. Et il demande à Isaac, est-ce que tu vois ce que je vois? Et Isaac répond oui. Et il demande aux serviteurs, est-ce que vous voyez ce que je vois? Et les serviteurs répondent non. Alors puisque vous ne voyez pas et que l'âne ne voit pas, restez ici avec l'âne. C'est même pas la peine de vous poser la question. En fait, dans l'histoire de Balaam, c'est l'inverse, c'est l'ânesse qui voit. Mais ce qui est amusant, c'est que donc, il y a une coupure dans le voyage, là, donc ceux qui ne voient pas restent là, ceux qui voient avancent. Bon. Et puis ensuite, Abraham revint vers ses serviteurs et ils rentrèrent ensemble à Beersheba. Alors, c'est amusant, quoi, si on peut dire. Au début, on a deux fois la formule « ils allaient tous deux ensemble », Abraham et Isaac. Puis là, il revient tout seul vers les serviteurs, ils rentrent ensemble à Beersheba. Il y en a deux qui n'y rentrent pas, Isaac et l'âne. Bon. Alors Isaac, qu'est-ce qu'il est devenu? On sait qu'il n'est pas mort, puisqu'il va épouser Rebecca deux chapitres plus loin. Alors une tradition dit qu'il est allé faire deux ans de yeshiva, parce qu'il y avait Ever et Shem qui avaient... Voilà. Une autre qui dit qu'il était emporté au paradis. Mais l'âne...
On le retrouve quand même à l'entrée à Jérusalem.
Ah oui, mais c'est pas le même. Enfin si, c'est peut-être le même. C'est peut-être le même, oui. Mais justement, précisément, vous allez voir, l'âne ne revient pas du Moria, pourquoi? Dans le psaume 132, Dieu dit à propos du mont Moria, c'est ici le lieu de mon repos pour toujours. Puis on est bien obligé de constater que ce n'est pas tout à fait vrai, puisque le temple a été détruit deux fois. Eh bien, c'est la promesse que Dieu rétablira sa promesse, sa présence sur le mont Sion. Quand? Quand viendra celui dont il est dit, humble et monté sur un âne. C'est pour ça que l'âne est toujours là, il attend. En attendant, celui qui va restaurer la présence divine sur le mont Sion. C'est infini. C'est infini.
Oui, c'est chargé de symboles, bien sûr, tout cela. Bien sûr, d'allégories, de symboles. Ouais, c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, à étudier et à comprendre. Et... Bien.
Si vous me permettez, je voudrais faire une citation.
Oh, bah, je vous en prie, non. Bien sûr.
Parce que une chose, plus j'y réfléchis, plus ça me paraît impressionnant, c'est de penser que les chrétiens ne peuvent pas avoir accès à leurs origines sans la médiation du peuple juif. Puisque nos clés d'interprétation, ce sont les juifs qui les détiennent, en fait. Et alors, c'est une réflexion que fait Anne-Marie Pelletier dans la préface qu'elle a bien voulu écrire pour ce livre, à condition que je le retrouve. Voilà, c'est ça. Elle dit... elle parle de la parabole de la greffe dans l'épître aux Romains, en disant que finalement les pagano-chrétiens sont des greffons. Et elle dit « Se reconnaître greffé implique le consentement à exister en second, à se connaître à partir d'un autre, bénéficiaire de biens destinés à celui-ci d'abord. Autrement dit, être chrétien, c'est voir marquer la place de l'autre au cœur de son identité. Porter au fond de soi le sceau d'une altérité qui normalement devrait prémunir contre les identitarismes compacts, autrement dit qui devrait nous prémunir de la tentation de dire c'est nous les meilleurs parce que nous avons le Nouveau Testament, alors que justement nous l'avons reçu.
Ici, nous sommes presque persuadés de cela dans le travail que nous faisons ensemble de découverte, à la fois nous, juifs du monde chrétien, mais aussi le monde chrétien du monde juif. Mais ce qui a été terrible pendant des siècles, c'est ce virus Israël. Et ça, je pense, ça a tellement, tellement marqué les personnes. Et puis lorsqu'on entend vos récits, lorsqu'on lit d'autres choses comme Isaïe, ça ressemble tellement à ce qui est arrivé au Christ, on se dit, mais oui, ça, c'est une suite. Et on peut comprendre que ceux qui ne connaissaient pas le Premier Testament puissent dire, c'est cela la vérité et la seule. Et ça a fait quand même, bien sûr, beaucoup de grands malheurs. Bien sûr. Mais là, grâce à l'étude, oui, toujours l'étude. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment très important. En tout cas, merci infiniment parce que vous nous avez ce soir à faire quelque chose de très, très nouveau, très nouveau que nous n'avons pas entendu encore. Merci, merci d'avoir fait le voyage. Et nous, un grand voyage dans le temps. S'il vous plaît, je vais vous demander encore de rester quelques instants parce que j'ai deux informations à vous donner qui sont vraies, n'est-ce pas ? Il y en a qui sont contents, qui sont importantes. Nous avons eu la chance, Solange, Jean-Marc, en tant que protestant, et moi-même, d'avoir été reçus par le père évêque.